La Première
Podcast.
Un jour dans l'histoire, jusqu'à 14h30, sur La Première.
Alors Caroline, vous nous le disiez il y a quelques minutes, on va s'installer là le temps d'un entretien dans le Paris de 1910.
Oui Laurent, retour au début du XXe siècle qui devait être vraiment une période assez réjouissante, portée par le progrès. Les premières automobiles circulent dans la ville, même s'ils sont encore réservés à une élite. L'électricité va petit à petit remplacer les lanternes au gaz, on compte pas mal d'avancées sociales aussi, mais tout ça sera bientôt freiné par la Grande Guerre. Enfin, on n'en est pas encore là, nous sommes aujourd'hui en 1910. Et au cœur de l'hiver, la Seine va fameusement sortir de son lit, on oublie les attelages et les automobiles, on sort les passerelles de bois et les barques. Alors au-delà du côté romantique que ça a pu inspirer à certains, il règne un fameux désordre dans la ville lumière et c'est ce décor qu'a choisi Xavier Coste pour son dernier album en date, intitulé « À la dérive » et paru chez Casterman, un couple d'Américains va organiser le casse du siècle, inspiré de faits réels. Mais avant de parler de l'histoire, j'ai eu envie de resituer un peu le cadre historique et on va évoquer dans un instant avec Xavier Coste les circonstances dans lesquelles la Seine est sortie de son lit en 1910, après ces quelques notes de la Seine, précisément sur la bande originale d'un monstre à Paris. C'est Vanessa Paradis et M.
Elle sort de son lit, sur d'elle, la Seine, la Seine, la Seine, tellement jolie, elle m'ensorcelle, la Seine, la Seine, la Seine.
Qui m'intéresse beaucoup à l'histoire de Paris et c'est vrai que graphiquement ces inondations c'est quelque chose qui me paraissait vraiment intéressant à dessiner, donc c'est une envie graphique au départ qui m'a poussé à en savoir un peu plus sur ces inondations. Il se trouve qu'en fait, on a relativement peu de documents, j'étais assez surpris par ça. C'est arrivé en plein hiver, il s'est mis à pleuvoir plusieurs jours d'affilée et au bout d'un moment, forcément, la Seine a débordé.
Oui, c'est ça, c'est un événement qui pourrait se reproduire, on l'évoquera. Là, ça a duré 2 mois en tout quand même, le temps que la Seine monte jusqu'à son niveau maximum. Est-ce que la vie économique s'est arrêtée à ce moment-là? Parce qu'on peut imaginer que des commerces, des choses comme ça n'ont plus pu tourner.
Bien sûr, il y a eu beaucoup de chamboulements et ce que je trouve assez drôle, c'est qu'on a des photos avec les hommes politiques de l'époque qui se rendent à l'Assemblée nationale en barque. On a aussi des ministres qui n'ont pas pu aller travailler. Enfin, vraiment, toute l'économie était à l'arrêt. Effectivement, on a coupé l'électricité à Paris aussi pendant quelques jours. Donc ça a dû être quelque chose d'assez particulier à vivre. Et on a aussi quelques retours comme quoi des badauds s'étaient improvisés photographes et prenaient en photo des personnes sur des barques, en photo souvenir tout simplement.
Alors ça paraît un peu idyllique parce qu'on se dit « oh, il y a de l'eau partout », vous évoquiez le fait que voilà, les gens se déplaçaient en barque pour se rendre quand même au travail, pour qu'il y ait quand même un tout petit peu de cette activité économique qui puisse continuer. Mais quand on s'y intéresse un petit peu plus, on se rend compte que c'était l'horreur en fait, parce que les gens jetaient des immondices par la fenêtre, il y a des égouts qui ont débordé, ça devait être aussi un contexte assez difficile.
J'ai l'impression que ça devait être difficile, mais ce qui est assez étonnant et amusant, c'est que quand je vois des témoignages de personnes qui ont vécu ça, ils en gardent un souvenir amusé au fond, parce que c'est une période pendant laquelle ils n'ont pas travaillé, et ça avait un côté presque rigolo d'entraide entre voisins, entre amis, et d'autant plus qu'il n'y a pas eu de mort au fond, parce que la progression de la crue a été très lente, donc on a vu venir la chose, il n'y a pas eu de désastre au sens propre.
Oui, ces témoignages, justement, vous les avez récoltés où?
Principalement des cartes postales que les gens s'envoyaient entre eux pour dire où ils en étaient au fond, quoi, tout simplement. Et j'ai vu quelques livres sur l'époque. Mais je dirais qu'à part des cartes postales d'anonymes et les articles de journaux, on a peu de choses. J'ai pas trouvé énormément de témoignages écrits vraiment très détaillés de personnes qui ont vécu ça.
Oui, alors on imagine aussi que dans Paris en cru, les maisons sont peut-être ouvertes, en tout cas accessibles. Il y a dû avoir quand même pas mal de menus larcins qui ont été commis. Il devait quand même y avoir une drôle d'ambiance.
Effectivement, les apaches, c'était les bandits de l'époque, en ont profité parce que c'était du pain béni pour eux. Des maisons étaient abandonnées et c'était très facile d'y pénétrer.
On parle de ça, c'était en 1910. Or, on a l'impression que c'est très loin et que ça ne pourrait plus se reproduire. Mais on évoque encore ce scénario actuellement. Ça pourrait se reproduire, une telle crue aujourd'hui à Paris?
Les spécialistes pensent que c'est fort probable, effectivement. Mais contrairement à 1910, on a quand même les outils nécessaires aujourd'hui pour évaluer la situation et on verrait venir, je pense qu'on saurait l'éviter.
Après un mois de précipitations intenses, le niveau de la Seine a atteint une hauteur exceptionnelle. Depuis une semaine, des milliers de Parisiens qui vivent en bordure du fleuve ont été obligés de quitter leurs habitations. Pour continuer à circuler dans la ville, il faut se déplacer en empruntant des barques ou des passerelles de bois construites par les Parisiens eux-mêmes. La tour Eiffel a les pieds dans l'eau. Et il faut se réfugier sur la colline de Montmartre pour avoir une chance de rester un peu au sec.
Et on se replongeait là, Caroline, dans la réalité de ces crues de la Seine avec cette actualité qui est d'époque, 1910.
Oui, actualité d'époque, une de ces actualités comme on en voyait en allant au cinéma et qui sont un petit peu les ancêtres de nos journaux télévisés. Celle-ci, vous la retrouvez juste avant le film d'animation Un monstre à Paris qui, comme vous le savez, se passe aussi dans le Paris inondé de 1910. On va en revenir à notre album À la dérive de Xavier Coste qui vient de sortir chez Casterman et on va faire connaissance avec ses personnages et Eddie et Agatha. Ils sont tous deux américains et fameusement dans le creux de la vague financièrement parlant, d'où le fait qu'ils imaginent de faire un casse. Mais que faisaient-ils à Paris exactement? C'est ce que j'ai demandé à l'auteur.
Je trouvais ça intéressant de rester assez flou par rapport à ça. J'en parle un peu au début de l'album parce qu'Agatha lui dit qu'elle aurait aimé qu'il l'emmène à Venise et finalement il se retrouve à Paris sous les eaux. Donc, pour moi, en fait, ils étaient en voyage en Europe et ils se sont retrouvés coincés à Paris parce qu'ils n'avaient plus d'argent et ils avaient des dettes.
Voilà, pas mal de dettes, rien ne va plus. Agatha est obligée de se prostituer pour leur permettre de survivre. Elle a du succès dans ce rôle de prostituée, mais Eddie, ça le rend fou quelque part. Il décide alors de braquer une banque, l'American Express. Et ce braquage, il est inspiré de faits réels. Un braquage réalisé en 1903 par deux Irlandais, Eddie Guérin et son amante Chicago May. Vous avez gardé son prénom à lui. Eux, ils étaient venus spécialement à Paris pour ce casse-là. Pourquoi ?
Je ne sais pas vraiment s'ils étaient venus spécialement. En fait, ils étaient venus pour voir l'Expo Universelle. Et apparemment, c'est justement en se baladant dans Paris qu'ils ont eu la révélation en voyant cette grande banque qui est en face de l'Opéra Garnier. Donc c'était presque... ils avaient tous les éléments pour vouloir faire un casse ici. C'était les plus grosses banques d'Europe.
Ouais. Comment est-ce que vous avez pris connaissance, vous, de cette histoire-là ?
En me penchant dans les archives policières de Paris.
D'accord. Donc vous allez en bibliothèque, en général, quand vous préparez vos ouvrages ?
Ça m'arrive, oui, tout à fait. Où je regarde pas mal de vieux journaux de l'époque. Et c'est ça qui m'a donné l'inspiration, en fait. J'ai pris plusieurs petites anecdotes de larcins qui ont eu lieu pendant la crue ou de ressentiments des gens. Et à partir de toutes ces anecdotes, j'essaie de composer une fiction.
D'accord. Alors, ces deux-là étaient venus, ils étaient probablement, vous le disiez, en voyage en Europe. Ils préféraient sans doute aussi être loin de chez eux. Dans votre album et dans la réalité aussi, ça tourne mal. Eddie est envoyé au bagne. C'est le destin aussi qu'a connu Eddie Guérin, je le disais. On les envoyait en Guyane à l'époque, c'est bien ça ?
Ouais, tout à fait. C'était même presque la fin de la période du bagne. Et le seul à en être revenu, c'était Louis Dreyfus, en fait. Donc c'était vraiment, quand on était envoyé au bagne à cette époque-là, on y passait le restant de ses jours.
Oui, mais Eddie Guérin, dans la réalité, on dit aussi qu'il a réussi à revenir en Europe.
Il a réussi à s'échapper. Et c'est vrai qu'une des envies de cette, enfin, une des raisons qui m'ont poussé à faire cet album, c'est que je suis tombé sur une gravure d'époque très suggestive où on le voit sur une barque avec plein de requins qui gravitaient autour de lui. C'était une image très fantastique, ça m'a donné envie de creuser l'histoire.
Mmh. C'était un coup de chance, vous pensez, qu'il ait réussi à s'en sortir ? Parce qu'en général, on les envoyait en Guyane pour qu'ils ne reviennent plus jamais, justement. Parce que s'ils tentaient de reprendre la mer sur une embarcation, ils étaient voués à être dévorés, effectivement.
C'est assez incroyable qu'il ait pu revenir vivant. Parce que ses complices ont été soit dévorés par des requins, soit dévorés par des loups sur d'autres continents. Donc vraiment... C'est un des rares à être revenu vivant du bagne.
Mmh. Alors dans votre album, après le casse, vous restez concentré beaucoup sur Eddie. Agatha, on perd un petit peu sa trace, on a des nouvelles de temps en temps. Dans la réalité, la Chicago May qui a inspiré ce personnage, visiblement, elle a eu une vie tumultueuse. Elle a continué dans ce rôle de prostituée, elle a ruiné des hommes sur son passage, etc. Ça ne vous intéressait pas de creuser ce sillon-là également ?
Je préférais m'intéresser à Eddie, qui au fond pour moi est un personnage presque faible psychologiquement et qui se laisse envahir par Agatha. Agatha n'est pas le personnage principal, mais tout au long de l'album, c'est vraiment elle qui a le dessus, et même quand elle n'est pas là, sa présence est étouffante pour Eddie. C'est ça que je trouvais intéressant.
Mmh. Vous dites que c'est un faible, et pourtant c'est quand même lui qui va commanditer ce braquage et trouver les hommes pour le faire.
Ce qui m'intéresse, je ne crois pas aux bons et aux méchants, et j'avais envie de montrer des personnages qui pouvaient être sympathiques au départ, qui n'ont pas la carrure de grands bandits, mais qui vont se retrouver dépassés par les événements, entrer dans une spirale qui va les pousser à faire des choses trop brutales pour eux.
Ambiance jazz ici avec Whiplash sur la BO du film éponyme de Damien Chazelle qui sort chez nous, Caroline, le 18 février.
Oui, ce film qui est un hommage au musicien Hank Levy décédé en 2001. Et si on vous a fait écouter cet extrait, c'est parce que Xavier Coste a énormément écouté cet album pendant l'élaboration de cette BD À la dérive. Alors vous le savez, Laurent, puisque vous avez déjà reçu Xavier Coste dans cette émission, c'est un passionné du début du XXe siècle, en témoignent ses deux précédents albums, Egon Schiele, Vivre et mourir, ainsi que Rimbaud, L'indésirable, paru respectivement en 2012 et 2013. Et je lui ai demandé ce qui l'attirait particulièrement dans cette époque.
Il y a tout un fantasme pour moi, parce que sur mes premiers albums, je m'étais intéressé à Egon Schiele et à Arthur Rimbaud, et c'est des gens qui ont en quelque sorte révolutionné leur domaine, la peinture et la littérature. Et c'est vrai que je regarde beaucoup de peintures de cette époque-là, les couleurs qu'on utilisait à l'époque m'intéressent. Et comme je vis à Paris, je suis vraiment passionné par l'histoire de Paris. Donc tout naturellement, j'essaie à chaque fois de creuser certains sujets. Sur Rimbaud, c'était intéressant pour moi de montrer Rimbaud pendant la Commune. C'est une chose que j'ignorais, en fait, je ne savais pas qu'il avait vu ça. Et pour l'inondation de Paris, tout simplement, j'avais déjà vu plusieurs cartes postales, plusieurs photos, mais j'en connaissais pas plus. Et je me rendais compte qu'autour de moi, les gens étaient assez peu au courant de ce qui s'était passé.
Mmh, c'est le côté historique ou le côté graphique qui domine ?
C'est vraiment les deux. C'est que au départ, c'est vraiment une envie graphique. J'avais envie d'utiliser de l'aquarelle, de l'acrylique, de vraiment me faire plaisir au niveau du dessin sur cet album. J'avais envie de dessiner de l'eau, mais je ne savais vraiment pas ce que j'allais raconter. Et puis, à force de voir autant de photos de Paris inondée, je me suis dit que c'était là-dedans qu'il fallait que je me lance.
Mmh. Alors, c'est un album romancé, hein, on l'évoquait. Malgré tout, en choisissant d'inscrire cette histoire dans une certaine époque, vous vous imposez aussi une certaine cohérence historique. Jusqu'où va votre souci du détail en la matière ?
J'essaie de rester assez flou dans le sens où je pense qu'il faut qu'on ressente l'émotion dans le dessin, et au fond ça importe peu si les personnages ont le nom de boutons de manchette vraiment véridique. Je pense qu'il faut presque créer l'illusion, et même si je représente Paris de 1910, j'en fais une version assez fantasmée. Dans les premières pages de l'album, il y a une double page où on voit la tour Eiffel avec une espèce de tempête, des bateaux dans tous les sens. Bien sûr, il y a eu des photos avec la tour Eiffel, les pieds dans l'eau, mais j'aime bien exagérer. Et au fond, j'ai voulu donner une image presque fantastique de Paris.
Mmh. Il y a d'autres sujets que vous êtes en train de travailler sur cette même époque du début du XXe siècle ?
Alors, il y a d'autres sujets qui m'intéressaient, mais j'avais envie d'être là où on ne m'attend pas. Et je prépare un projet de science-fiction en ce moment.
On peut dire là dans cet album que le fait de transposer le braquage dans un Paris inondé, on l'évoquait tout à l'heure, il a eu lieu en fait en 1903, donc Paris n'était pas du tout sous eau. C'était la question graphique là qui vous intéressait ?
Tout à fait, parce que vraiment au départ, c'était pas un désir de raconter ce braquage, mais plus un désir de raconter une histoire qui se passe pendant les inondations. Et il se trouve que quand j'ai vu ce fait divers, je me suis dit qu'il y avait une matière à ce qu'il se passe quelque chose. D'autant plus que ça aurait vraiment été la période idéale, je pense. Si j'avais été braqueur, en tout cas, j'aurais attendu qu'il y ait les inondations.
Mmh. Une envie aussi, vous auriez eu envie de vivre à cette époque-là, puisqu'elle vous hante, hein, visiblement. On la retrouve dans plusieurs de vos ouvrages.
Je ne saurais pas dire. Après, c'est vrai qu'on fantasme toujours ce qu'on ne pourra pas connaître. Mais il y a beaucoup de choses de l'époque qui m'inspirent au quotidien, que ce soit la littérature ou la peinture. Vraiment, les artistes que j'adore étaient à cette période. Et j'essaie quelque part de pouvoir retrouver ça en créant autour de cette période.
Come into my dreamland, ça c'est le chanteur anglais Ed Harcourt.
Voilà, qu'on entend à l'instant ici encore. C'est une musique très actuelle, mais qu'a écouté Xavier Coste pour se plonger dans l'atmosphère de Paris 1910 et de la Guyane aussi, puisqu'une bonne partie de l'album se passe au bagne, là où sera envoyé Eddie après le casse de l'American Express. Très chouette album, pour en revenir à son album BD, là, à la dérive, avec, vous le verrez, des pubs de l'époque sur les deuxième et troisième de couverture, des publicités que Xavier Coste a trouvées en feuilletant des journaux de l'époque. Il me disait que tous les journaux depuis 1800 ont été scannés et sont consultables en ligne sur le site Gallica, qui est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. C'est gratuit, c'est simple d'accès. Enfin voilà, c'est assez génial, j'ai été regarder. Et je vous rappelle donc les références de cette BD de Xavier Coste à la dérive, c'est chez Casterman.